Ah, des débiles, ah, des déments, cris des mutilés, des mourants, fleuve de larmes, jamais tari. Malheur qui sombre dans l'oubli. Qu'on me montre dans la nature une espèce débile au point d'infliger supplice et torture à son semblable, à son cousin. Nous c'est que rapine et pillage, combien d'Hitler au long des âges, de Staline pour un Gandhi. Nous n'avons rien appris. Massacre répété trop de fois, stupidité, crimes et cendres, à bout de honte, je hurle, arrêtez la terre, je veux descendre, je veux quitter la race humaine, me faire mouette ou bien baleine, n'importe quoi, goutte de pluie, plume graine au vent qui s'enfuit. Je veux quitter la race humaine, me faire moineau, roseau, vieux chêne, ruisseau, caillou, feuille, fourmi. Nous n'avons rien appris.
Y'a qu'une seule cartouche d'encre noire dans mon stylo désarmé, juste une plume trempée dans l'espoir d'un monde de fraternité. Aux fiers messagers de la haine, j'envoie cet avion de papier chargé des seuls mots de ma peine sur leur tour d'inhumanité. Moi qui ne crois en aucun dieu, je prie celui qu'on voudra pour qu'au mur des villes, des banlieues, se taguent un jour des mots de joie. Mes larmes ne m'écoutent plus, larmes de rage et de tristesse. C'est un peu de moi que l'on tue, mes rêves d'ado que j'y laisse. On gommera nos masques tristes, nos guitares sans importance seront nos fusils d'artistes. Je vais encore gueuler l'amour, plus haut, plus fort sur tous les toits, pour qu'il soit contagieux autour et qu'il gagne enfin pour une fois. Je suis enfant sans armure, l'eau, le feu, la terre et le vent. J'ai mal à celui qu'on torture, je suis humain simplement. Pour tous ces frangins qu'on enterre, j'ai dessiné cette chanson-là. Je n'ai que ça comme prière, pour leur dire qu'on ne les oublie pas.
La patience des graines dans la dune, celle qu'on voit renaître quand arrive la pluie. Passent les vents de sable et les mois et les lunes,
fou qui croira alors que je suis endormi. J'aurai l'entêtement de la femme qui s'aime. Le blé, le riz, l'espoir sur les sillons ingrats. Depuis le fond des âges. Et ça, parce que je t'aime. Et que bientôt, je sais, tu seras dans mes bras. Mais que longue est l'attente dans ce printemps gâché. Les journées passent lentes et chacun des baisers qu'on n'a pas pu donner est perdu à jamais. C'est comme un océan, ce temps qui nous sépare. Sombre, froid, plein d'écume et sans une île au loin. C'est comme un blanc désert où les pistes s'égarent. Et qui peut dire quand on en verra la fin. Ici, je guette la plus petite lumière. J'écoute la rumeur, je me prends à rêver. Qui donc a eu l'idée d'inventer les frontières et les lois qui retiennent les amants éloignés? Oh, que longue est l'attente dans ce printemps gâché. Les journées passent lentes et chacun des baisers qu'on n'a pas pu donner est perdu à jamais. Que fais-tu dans la ville où tu es prise au piège? Où tu es, j'en suis sûr, toujours la plus jolie. Surtout, rappelle-toi, notre amour nous protège. Et distance ou tristesse peuvent rien contre lui. Les jours heureux viendront au bout de cette peine. À l'été, c'est promis, nous serons réunis. Alors dans le soir bleu, ta main dedans la mienne, je te dirai, Nanou, je t'aime plus que la vie. Mais que longue est l'attente dans ce printemps gâché. Les journées passent lentes et chacun des baisers qu'on n'a pas pu donner est perdu à jamais.
Je passe tous les ans quasiment dans les mêmes parages. Et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Il y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous ne connaissez pas. Pour que rien ne se perde, mangerai qu'on sait quoi ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Il y avait dans le temps un beau arpentes goulues d'un peu de lèpre toute neuve. Mais le chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grande ma main. Par où donc que cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Oh mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont? Dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mange-terre. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grande ma main, je pourrais bien l'élargir demain.
Mais Mangeterre, une émission d'écologie sociale sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Et comme nous avons pris un léger retard dû à un déplacement à vélo qui en ce moment est assez périlleux avec la pluie, ça glisse, il fait nuit, voilà, c'est compliqué. Pour autant, ça n'empêche pas qu'on puisse se déplacer par ce mode de transport en étant prudent, bien sûr. Et voilà, donc quelques explications pour ce retard et donc pour ne pas le faire perdurer. Tout de suite, un petit tour d'horizon en amont de sujets plus thématiques, avec bien sûr l'information de ce mois, le Conseil d'État qui a annulé la dissolution des soulèvements de la Terre, estimant que c'est une décision disproportionnée. Donc je reprends l'article de Novetic sur le sujet, puisque la décision donc du ministre de l'Intérieur, qui voulait en finir avec les soulèvements de la Terre via leur dissolution, n'était, citation, ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné. C'est l'avis du Conseil d'État qui a annulé la dissolution du collectif jeudi 9 novembre en application du droit français qui garantit constitutionnellement la liberté d'association. Ça remet clairement en cause les accusations d'écoterrorisme sur lesquelles reposait la dissolution. Une victoire pour le mouvement et ses soutiens. Nous ne sommes pas dissous, clame le compte officiel des soulèvements de la Terre. Le collectif remercie tous les soutiens dont il a bénéficié et les dizaines de milliers de personnes qui l'ont rejoint depuis l'annonce de sa dissolution par le ministre de l'Intérieur en mars dernier. Gérald Darmanin entendait contrer l'écologisme radical qu'il accusait de tous les maux, au point de parler d'écoterrorisme à propos de la manifestation de Sainte-Soline contre les méga-bassines qui avaient dégénéré. Les réactions se sont multipliées à propos de cette décision, en tendance sur Twitter ou tout l'après-midi avec une tonalité dominante. La décision du Conseil d'État est considérée comme une victoire pour le mouvement et une défaite pour Gérald Darmanin. Les soulèvements de la Terre ont choisi l'humour pour tourner en dérision cette dissolution finalement invalidée et souligner sa disproportion. Ils vont même jusqu'à considérer qu'en utilisant l'argument de l'absence de proportionnalité entre les actions du mouvement et la violence d'une dissolution, le Conseil d'État confirme, à notre sens, donc ça c'est les soulèvements de la Terre qui le disent, l'idée que face au ravage des acteurs privés, de l'agriculture intensive, de l'accaparement de l'eau, nos modes d'action puissent et doivent être considérés comme légitimes. Ce n'est pas vraiment ce que dit le Conseil d'État qui a rendu un avis nuancé, très intéressant à lire intégralement selon l'avocat spécialiste de l'environnement Arnaud Gossemant. Le juge administratif estime que les soulèvements de la Terre sont bien un groupement de faits dont il peut être légitime de surveiller les membres, d'autant plus s'ils appellent à détruire des biens. En revanche, il n'est ni adapté, ni nécessaire, ni proportionnel à la gravité des troubles à l'ordre public de le dissoudre, d'autant plus qu'il n'est pas démontré ni soutenu que les soulèvements de la Terre seraient les auteurs de provocations explicites à la violence contre les personnes. Exit donc les éco-terroristes. La portée la plus importante de la décision du Conseil d'État concerne la défense de la liberté d'association. Il estime que la dissolution porte une atteinte grave à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République. C'est très important pour les associations dont les modes d'action visent à interpeller. Elles se sentaient menacées par la dissolution reposant sur une lecture extensive de la loi sur le séparatisme de 2021. Dernier conflit symbolique en date, le projet autoroutier A69 dans le Tarn remet en cause les mêmes enjeux sur la légitimité d'une action au regard de la nature versus sa légalité et de son impact auprès des populations. Le débat sur ce thème devrait s'intensifier, mais la décision du Conseil d'État consacre l'idée que les militants ont tout à fait le droit de s'organiser en mouvement de protestation à condition de rester dans un cadre légal. La dissolution des soulèvements de la Terre faisait planer l'idée que s'opposer au modèle dominant était en soi tellement grave que cela justifiait l'interdiction d'un mouvement. Voilà un article qui résume bien les choses, hein, issu de Novétique, et bien rédigé par Anne-Catherine Husson-Traoré, qui est directrice des publications. Alors, tout à fait dans l'éclectisme de l'introduction de cette émission, je voulais aussi faire un écho à ce communiqué commun, alors signé par beaucoup d'associations, hein, donc le communiqué autour du livret A qui dit non au financement de l'armement et oui au financement du logement social et de la transition écologique. Un communiqué signé notamment par Abolition des armes nucléaires, Attaque France, la CGT Banque de France, le Mouvement pour une alternative non violente, l'Observatoire des armements, le Réseau Éducation Populaire, le Réseau Sortir du Nucléaire, l'Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts, l'Union pacifiste de France, voilà, je ne cite pas tous les signataires. Et ça me semblait important de revenir sur ce point, donc un communiqué du 29 novembre qui dit que nos organisations rassemblées exigent que l'amendement parlementaire déposé par Renaissance, Horizon et LR au projet de loi de finances qui permet le détournement des fonds du livret A et du livret du développement durable et social LDDS au profit du financement de l'industrie d'armement soit retiré. En effet, cet amendement est de toute évidence un cavalier législatif, c'est-à-dire un amendement qui n'a rien à voir avec le projet de loi de finances 2024, passé en force à l'Assemblée nationale par un nouveau 49-3 gouvernemental. Dès à présent, l'ensemble des associations signataires appellent l'ensemble des sénateurs à déclarer cet amendement irrecevable. Nos organisations considèrent comme totalement inacceptable que l'épargne réglementée dite épargne populaire soit utilisée pour financer des activités d'armement dont certaines sont interdites par le droit international. Ces fonds ont vocation à répondre aux besoins de la population à travers notamment le financement du logement social et de la transition écologique. Notre pays est confronté à une crise du logement gravissime. Il y a 4,15 millions de personnes mal logées en France et 330 000 sans domicile fixe selon la Fondation Abbé Pierre. La Fondation a également identifié 12,1 millions de personnes en situation de fragilité financière par rapport au logement. Celle-ci intervient dans un contexte d'inflation, notamment alimentaire, qui atteint des niveaux inconnus depuis plusieurs décennies. Aussi, il y a urgence, en métropole et en Outre-mer, à engager et financer un véritable plan d'urgence en matière de construction de logements sociaux pour répondre aux besoins de différentes populations. Hébergement d'urgence, foyers pour travailleurs immigrés, jeunes travailleurs, parents isolés et femmes victimes de violences conjugales, résidence pour étudiants, logement pour les ménages avec ou sans enfants, résidence autonomie. D'autre part, s'agissant de la transition écologique, contrairement aux engagements publics pris par le ministre Bruno Le Maire, le LDDS, Livret Développement Durable et Solidaire, finance toujours des énergies fossiles et des industries toxiques. L'appellation donc Livret de Développement Durable et Solidaire est aujourd'hui manifestement trompeuse. Les fonds du livret A et du livret LDDS doivent faire l'objet d'un traçage précis et incontestable afin de s'assurer que l'épargne réglementée réponde bien aux besoins sociaux et écologiques conformément à sa vocation. Au-delà de l'actuel débat législatif sur le projet de loi de finances 2024, Les organisations signataires décident de s'engager résolument ensemble et dans la durée afin de créer les conditions d'un vaste débat public sur la nécessité d'orienter réellement l'épargne populaire vers la satisfaction des besoins sociaux, prioritairement le logement social et le financement de la transition écologique. Et puis, puisqu'on est sur le sujet du logement, alors on s'éloigne un tout petit peu du sujet purement de l'écologie, mais pour autant, il me semblait important de revenir avec ce communiqué d'Oxfam France de ce jour, donc du 4 décembre, sur le logement, inégalité à tous les étages. Et qui nous dit que face à une crise de logement qui prend de plus en plus d'ampleur en France et que bon nombre d'observateurs qualifient de bombe sociale à retardement, Oxfam France publie donc aujourd'hui un nouveau rapport mettant en lumière l'explosion des inégalités dans le secteur. Alors que le logement est un droit fondamental, on assiste au désengagement progressif de l'État depuis des décennies. Le rapport alerte sur les conséquences de l'émergence de la financiarisation dans le secteur du logement, une fiscalité inadaptée et une absence problématique de régulation des acteurs privés qui sont autant de freins dans l'accès à un logement abordable pour toutes et tous. Donc, dans le résumé, quelques chiffres quand même qu'il faut bien se remettre en tête sur le logement et les inégalités. Les chiffres clés du rapport, c'est clair, un quart des plus modestes, donc les ménages les plus modestes, consacrent deux fois plus proportionnellement de leurs revenus aux dépenses de logement que les 25% les plus aisés. Oxfam a calculé que trois niches fiscales, donc des facilités fiscales relatives au secteur du logement, ont coûté près de 11 milliards d'euros aux finances publiques en 12 ans, de quoi financer plus de 70 000 logements sociaux. En 20 ans, les prix des biens immobiliers ont augmenté 4 fois plus vite que les revenus bruts des ménages. Hein, là, on voit bien la spéculation. Hein, les revenus augmentent 4 fois moins vite que les prix des biens immobiliers, objets spéculatifs et non plus objets répondant à une finalité sociale. On voit le dévoiement par le capitalisme du droit de propriété, évidemment. Début 2021, les 10% des Français les plus riches en patrimoine concentraient 44% de tout le patrimoine immobilier français. Et surtout, moi, ce qui me semble le plus important, c'est cette information. 3,5% des ménages détiennent à eux seuls la moitié des logements qui sont mis en location. Donc là, on voit très clairement, il y a un système de concentration, hein, c'est le système inégalitaire type par celui qu'on connaît à travers l'héritage. Là, on le voit, 3,5% des ménages détiennent à eux seuls la moitié des logements mis en location. On voit donc qu'on a affaire à une activité finalement de rapport, c'est-à-dire l'argent qui rentre finalement en dormant, hein, puisque c'est un argent qui est créé par l'effet de l'accumulation du capital et également l'effet de la spéculation. Autre point, un désengagement progressif de l'État et une financiarisation accrue. Un premier constat donc de l'étude d'Oxfam est que le désengagement progressif de la puissance publique ces dernières décennies laisse une plus grande place à des acteurs financiarisés et à une quête de rentabilité à tout prix. Dans cette course à la rentabilité, les résidences privées, étudiantes et seniors se sont multipliées au détriment d'une offre abordable pour les plus précaires. Sur les niches fiscales, on a donné les informations. Je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin. Pour peut-être mettre en parallèle le fait que donc 3,5% des ménages détiennent plus de 5 logements et donc la moitié des logements mis en location par des particuliers. Et en même temps, la demande de logements sociaux explose et en 2020, les ménages se sont endettés en moyenne sur 22 ans pour acquérir leur résidence principale, alors que cette moyenne était de 15 années et demie en 2000. On le voit avec le renchérissement des coûts. Bientôt, il faudra faire des prêts sur les générations suivantes pour pouvoir acquérir sa résidence principale. Et puis, bien sûr, la régulation d'acteurs privés est un enjeu majeur. Donc, on peut penser à Airbnb. Les plateformes de location courte durée créent une pénurie de logements et contribuent à l'augmentation des prix dans certains territoires. Voilà, et puis on peut peut-être terminer, je ne vais pas tout lire. La rénovation énergétique des bâtiments est par ailleurs une problématique centrale des discussions autour des inégalités face au logement. Alors que les plus modestes sont les premières victimes de la précarité énergétique, il est essentiel de s'assurer que les particuliers multipropriétaires soient davantage incités à rénover leur logement. Et ça, c'est absolument clair, hein. Un logement, ce n'est pas un objet de spéculation, c'est vraiment une condition de la dignité humaine, encore une fois, et eh bien, il est clair que l'argent récolté doit être réinvesti pour l'entretien de ce logement, un peu comme dans les comptes classiques d'un organisme HLM, hein. Il est clair que les loyers ne servent pas à engraisser des actionnaires, mais bien à la fois à entretenir le patrimoine, à réinvestir, le rénover, et puis à développer aussi le patrimoine. Mais il est clair que on a un système complètement déresponsabilisant, le système capitaliste, hein, qui considère que un logement, c'est une vache à lait, on encaisse les loyers et les obligations, on les repousse au dernier moment jusqu'à ce que la loi nous l'impose, et encore s'il y a seulement des mesures répressives. Voilà, donc on est très très loin de la solution, et la propriété jusqu'à présent est bien un sujet bien prépondérant par rapport à celui du service public et du droit à la dignité humaine. Allez, je change de sujet ce début d'émission pour évoquer, puisqu'on est à proximité, l'incinérateur d'Ivry Paris 13 avec Zero Waste France, donc l'association Zéro Déchet, quoi, hein, c'est juste une façon de le dire à l'anglaise, voilà. Mais donc Zero Waste France qui publie un communiqué qui nous dit que les émissions de dioxines ne sont pas contrôlées comme elles devraient l'être, et qui s'appuie sur l'étude de l'ONG Toxico Watch, qui a mis en évidence que les appareils de contrôle de dioxine émis par l'incinérateur, qui sont censés fonctionner 24 heures sur 24, n'auraient pas effectué de prélèvement pendant près de 7000 heures en 2 ans, ce qui est alarmant par rapport à l'inaction publique face à la dangerosité démontrée des dioxines sur la santé. Donc le collectif 3R, le groupe local Zero Waste, engagé dans la lutte contre la reconstruction de l'incinérateur Ivry Paris 13, a obtenu du SICTOM les données détaillées des capteurs situés à l'intérieur des cheminées de l'incinérateur, qui ont été analysées par une ONG néerlandaise, donc Toxico Watch. Dans une étude qui montre que les capteurs n'ont pas effectué de prélèvement pendant près de 7000 heures, soit près de 300 jours au cours des années 2020 et 2021. Les dioxines sont des composés chimiques classés cancérogènes par le Centre international de recherche contre le cancer, qui peuvent se former en quelques secondes lorsque la température de combustion à l'intérieur du four de l'incinérateur est insuffisante, c'est-à-dire à moins de 850 degrés. Comme le précise Abel Arkenboot, qui est toxicologue et directeur de Toxico Watch, dans l'enquête révélée par Le Monde, un nombre aussi élevé d'heures de défaillance de l'équipement de mesure indique que la combustion n'a pas été optimale en permanence. La probabilité d'émission de grandes quantités de dioxine est donc très élevée. Cette ONG donc avait publié déjà en février 2022 une étude mettant en évidence des teneurs importantes de dioxine dans les œufs de poule élevés en plein air sur les communes situées autour de l'incinérateur d'Ivry Paris 13. Depuis, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, recommande de ne pas consommer d'œufs issus de poulaillers domestiques dans toute l'Île-de-France. Polluants organiques persistants dans l'environnement, les dioxines sont produites lors des procédés de combustion. Listées comme composés chimiques les plus préoccupants par l'Organisation mondiale de la santé, elles s'accumulent dans la chaîne alimentaire, en particulier les viandes, poissons, œufs et produits laitiers. Abel Arkenboot, qui est auteur du rapport de Toxico Watch, précise que la valeur limite européenne pour les dioxines n'a pas été révisée depuis plus de 33 ans, alors que les preuves scientifiques s'accumulent sur leur nocivité. Il cite l'exemple des Pays-Bas où un moratoire est en vigueur depuis 2009 sur l'incinération des déchets. Une limite 10 fois plus stricte d'émissions de dioxine a été fixée pour l'incinérateur construit en 2011 à Harlingen. Si cette valeur limite avait été appliquée à l'incinérateur d'Ivry Paris 13, celui-ci aurait été en infraction durant presque toute la période de 2020 à 2021, selon le directeur de Toxico Watch. Cette étude pose une nouvelle fois la question des impacts sanitaires directs des installations d'incinération. Loin de n'émettre que des particules d'eau. Les fumées d'incinération sont chargées de particules fines que l'on peut retrouver, qu'on ne peut trouver qu'en les cherchant et en les mesurant. C'est alors que les études alternatives menées par les ONG montrent les failles possibles dans le contrôle des émissions par les autorités et surtout les dangers d'une autosurveillance par les exploitants eux-mêmes. Cette étude est publiée à l'heure où l'ONG Zero Waste Europe publie son rapport, le titre est en anglais, je ne le lis pas, qui met en lumière la surcapacité des pays de l'Union européenne en matière d'incinération des déchets. De 2004 à 2020, la capacité d'incinération des déchets a connu une augmentation constante au sein de l'Union européenne d'environ 8 millions de tonnes supplémentaires par an. En 2020, les pays de l'Union européenne ont atteint la capacité d'incinérer 200 millions de tonnes de déchets. Dans les faits, ce sont 140 millions de tonnes de déchets qui ont été gérées par les installations d'incinération cette même année, soit une surcapacité de 60 millions de tonnes de déchets qui continue d'augmenter chaque année. Le rapport de Zero Waste Europe tire le signal d'alarme. Cette surcapacité d'incinération est en opposition complète avec les objectifs de réduction des déchets et de valorisation des matières, notamment les biodéchets, prévus par le Code de l'environnement et la réglementation européenne. Yannick Vac, qui est responsable de la politique zéro pollution chez Zero Waste Europe, déclare « Il est temps d'instaurer un moratoire sur l'incinération ». Même si elle est, depuis 2021, exclue du registre des investissements verts de l'Union européenne, l'incinération bénéficie toujours d'une position privilégiée au sein de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le rapport de Zero Waste Europe insiste donc sur le besoin urgent de traiter l'incinération et la mise en décharge sur le même niveau afin de favoriser les pratiques de réduction et de gestion des déchets plus durables. Comme le précise l'ADEME depuis 2017, la France n'a plus besoin de nouvelles capacités d'incinération au regard de la priorité devant être donnée à la réduction des déchets. Malgré ces recommandations, les projets de reconstruction ou d'agrandissement d'incinérateurs existants continuent d'émerger et d'engloutir des milliards d'euros d'argent public qui ne financent donc pas la prévention des déchets. Mobilisé depuis 25 ans dans la lutte contre l'incinération, Zero Waste France et ses groupes locaux continuent à lutter localement contre ces projets inutiles et polluants. Voilà, et puis, allez, avant de s'accorder une pause musicale bien méritée, un petit article, un petit communiqué de France Nature Environnement, donc par rapport au Black Friday. France Nature Environnement félicite l'ADEME pour ses 4 spots de publicité autour du dévendeur, la notion de dévendeur, celui qui ne vend pas, celui qui refuse de vendre. Et France Nature Environnement félicite aussi l'ensemble des associations professionnelles de commerçants pour avoir donné une réelle visibilité à ces publicités en période de matraquage marketing autour du Black Friday, le vendredi noir au sens propre du terme pour la nature et l'environnement, en demandant le retrait de ces publicités. Alors là, je fais référence à des publicités qui conseillaient de ne pas acheter, de réparer, etc. Ce qui a entraîné de vives réactions de la part des commerçants en disant que c'est de l'anti-commerce. Mais évidemment, le commerce s'inscrit dans le champ des activités sociales, donc il faut regarder l'utilité de ce qui est vendu, et le tout étant lui-même inscrit dans l'environnement, et là c'est la question de la durabilité des biens qui doit être posée avant le droit absolu au commerce. Et donc je reprends le communiqué de France Nature Environnement, qui nous rappelle que si le monde vivait comme la moyenne de la population française, il faudrait près de 3 planètes pour satisfaire nos besoins. Faire revenir nos modes de vie dans les limites planétaires d'ici le milieu du siècle est une évidence et une urgence. Ça passe par une modification profonde de nos modes de consommation en consommant moins, beaucoup moins, mais mieux, beaucoup mieux. Emprunter ou louer plutôt qu'acheter, réparer plutôt que remplacer, acheter du reconditionné plutôt que du neuf, acheter quand on a vraiment besoin plutôt que répondre à une impulsion. Les messages portés par ces séries de spots publicitaires sont parfaitement en phase avec les plaidoyers portés par France Nature Environnement. Concernant l'habillement, les quantités achetées en France augmentent régulièrement de 4% par an depuis une dizaine d'années, avec en moyenne 46 pièces d'habillement achetées par an et par personne en France en 2019. La marge de progrès pour revenir dans les limites planétaires en termes d'habillement est très importante. Le commerce de proximité, dans ce contexte d'urgence environnementale, doit se réinventer. La solution passe par le développement des circuits de seconde main, la réparation des vêtements et la vente de vêtements plus durables et plus locaux. Pour Antoine Gattet, qui est président de France Nature Environnement, l'avenir, c'est le développement d'une mode plus durable portée par des initiatives comme la prime à la réparation des vêtements récemment lancée. France Nature Environnement salue l'initiative de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique de communiquer autour de solutions alternatives à l'achat compulsif produit par la publicité et le Black Friday. Alors c'est vrai que c'est une initiative, on va dire, institutionnelle, mais le simple fait d'attaquer la publicité, on le voit, on touche là bien finalement au nerf de la guerre économique. Celui qui conditionne les esprits, celui qui conditionne le mode de vie par mimétisme, voilà, et qui conditionne la surconsommation, bien sûr, et ça me paraissait important de faire un écho à cette initiative. Voilà, on va s'accorder une pause musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. 100 Years dans un siècle par The Cure sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Voilà, une anticipation sombre bien d'un monde qu'il faut combattre et que nous essayons de contribuer justement à combattre par l'information, mais bien sûr c'est surtout par l'action, par l'organisation, l'auto-organisation que nous pouvons créer justement cet autre monde, et en tout cas à la fois en résistant à celui-là et en construisant des alternatives. Voilà, on reprend le cours de l'émission Les Mangeux de Terre sur Radio Libertaire 89,4 MHz. En ouvrant la page climat effet de serre avec cette information issue de reporter du 8 novembre qui nous dit qu'octobre a battu un nouveau record de chaleur à l'échelle mondiale avec une nouvelle anomalie exceptionnelle et une température moyenne de 15,38 degrés Celsius à la surface du globe. Le mois d'octobre 2023 est donc 0,4 degrés de plus que le précédent record pour un mois d'octobre qui datait de 2019, et même 1,7 degrés de plus que la moyenne des mois d'octobre sur la période de 1850-1900. Ces données donc sont celles de l'Observatoire européen Copernicus, ont été rendues publiques le 8 novembre. Après les mois de juin, juillet, août et septembre, le mois d'octobre est donc le cinquième mois consécutif à battre un record absolu de température. Le service européen estime ainsi avec une quasi-certitude que 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, en raison évidemment du changement climatique. Le sentiment de devoir prendre d'urgence des mesures climatiques ambitieuses à l'approche de la COP28 n'a jamais été aussi fort, a ainsi déclaré Samantha Burgess, qui est chef adjointe du service changement climatique de Copernicus dans un communiqué. À l'échelle européenne, 2023 se classe donc au quatrième rang des mois d'octobre les plus chauds, ce qui n'a pas empêché de nombreux records locaux d'être battus, notamment en France, et ces records qui s'empilent ne sont pas prêts de s'arrêter. Le seuil de 1,5 degré de réchauffement objectif de température à ne pas dépasser selon l'accord de Paris a une chance sur deux d'être franchi ponctuellement au moins au cours des 5 prochaines années, selon l'Organisation météorologique mondiale. Nous en sommes en 2023 à 1,2 degré de réchauffement global. Pour éviter un réchauffement catastrophique, il y a urgence à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Dans un rapport publié également le 8 novembre, le Programme des Nations Unies pour l'environnement alertait sur notre mauvaise trajectoire. Les gouvernements envisagent de produire en 2030 une quantité de combustible fossile plus de deux fois supérieure à celle compatible avec une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Voilà. On peut peut-être l'évoquer tout de suite d'ailleurs, parce que je voulais pas spécialement m'attarder sur la COP28 hein, avec ces annonces mirifiques. C'est les crocodiles qui vont être soignés par le maroquinier, hein, c'est un peu ça dans cette COP qui se déroule dans un des pays producteurs et pollueurs, le plus gros pollueur en tout cas au niveau des énergies fossiles. Donc c'est vraiment complètement aberrant. En plus, ce qu'on peut dire sur ces COP, hein, parce qu'on est un peu fatigué de redire un peu les mêmes choses, c'est que on a finalement l'illusion des engagements nationaux, hein, c'est-à-dire on a eu un protocole de Kyoto par exemple qui comptait les émissions de gaz à effet de serre de chaque pays. Et évidemment, avec des grands vides, à savoir tous les échanges internationaux, par exemple le maritime, l'aviation, tout ça n'était pas compté parce que, évidemment, on n'arrivait pas à imputer à qui imputer ces gaz à effet de serre. Et comme toujours, on pointe du doigt la Chine, mais bien évidemment, ce qu'il faut compter, c'est l'empreinte écologique. Et donc, c'est imputé aux consommateurs. Encore une fois, ces émissions de gaz à effet de serre. Et lorsque l'on fait ça, on s'aperçoit que les pays occidentaux ne sont absolument pas vertueux. Au contraire, ils ont délocalisé leur production. C'est un peu comme la réaction basique, hein, consistant à dire qu'on veut pas ouvrir, on veut pas d'ouverture de mines d'extraction de matériaux, de métaux rares, etc. près de chez nous. En revanche, on veut bien consommer et changer de portable régulièrement. Parce que toutes ces extractions se font dans d'autres pays. Ben, c'est bien toute ce paradoxe. Et il est vrai aussi pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a des engagements qui passent par des financements, de l'argent donné pour les pays qui vont être ensevelis ou avec des grandes catastrophes climatiques. Mais si la solution passait par l'argent, le fait de faire plus de business et de consacrer une part de plus en plus grande pour soigner les dégâts sur l'environnement, ça se saurait. Et au contraire, le problème, c'est justement de faire du business. C'est ça le problème. Et le problème, c'est l'économie orientée par les intérêts des capitaux et des rentiers et des actionnaires. Et ça, c'est évidemment le problème majeur. On ne peut pas parler d'écologie sans parler de ce sujet et de le mettre en avant, ce qui détruit la planète. Et on le disait aussi tout à l'heure, avec la publicité, évidemment, qui constitue un arrière-plan mental qui tend à décomplexer la consommation, qui tend à propager une image de consommation, la consommation des plus riches, et à la banaliser comme un marqueur social de richesse. Et justement, ça me permet de rebondir sur un communiqué d'Oxfam France encore sur les inégalités climatiques, et qui nous dit que les 1% les plus riches émettent autant de CO2 que les deux tiers de l'humanité. Alors c'est un nouveau rapport qui a été publié en s'appuyant sur les données du Stockholm Environment Institute sur les émissions de CO2 de la population mondiale en fonction de la consommation. Donc les 1% les plus riches ont généré en 2019 autant d'émissions de carbone que les 5 milliards de personnes, soit les deux tiers les plus pauvres de l'humanité. Ce rapport est publié en amont de la conférence des parties, donc la COP sur les changements climatiques, qui se tient à Dubaï, dans un contexte d'inquiétude croissante, alors que l'objectif de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré semble de plus en plus difficile à réaliser. Le rapport égalité climatique, une planète pour les 99%, est basé sur des recherches menées par l'Institut de l'environnement de Stockholm, SEI. Il analyse les émissions de consommation générées par différents groupes de revenus en 2019, l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Ce rapport souligne l'écart considérable entre l'empreinte carbone, c'est ce dont je parlais à l'instant, des ultra-riches, dont le mode de vie est gourmand en carbone, et celle du reste de l'humanité. Donc 77 millions de personnes sont responsables, les 1% les plus riches sont responsables des 16% des émissions mondiales liées à la consommation en 2019. Les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions mondiales. Chaque année, les émissions des 1% les plus riches annulent les économies de carbone réalisées grâce à l'utilisation de près d'un million d'éoliennes, soit plus que l'ensemble des éoliennes dans le monde. Entre 90 et 2020, les 1% les plus riches ont émis deux fois plus de carbone que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Les dérèglements climatiques et les inégalités perpétuent un cercle vicieux. La surconsommation des plus riches a des conséquences dramatiques pour les communautés les plus pauvres dans les pays du sud global, particulièrement les femmes et les filles, les moins responsables des émissions. Cette situation n'est pour autant pas une fatalité. Il est possible d'augmenter les revenus des plus pauvres tout en réduisant les émissions mondiales, selon Alexandre Poidatz, qui est responsable de campagne climat et inégalités chez Oxfam France. Oxfam a calculé qu'il serait possible, grâce à une redistribution mondiale des revenus, d'assurer à toute personne en situation de pauvreté, donc soit la moitié de l'humanité, un revenu quotidien minimum de $25, tout en réduisant les émissions mondiales de 10%, soit à peu près l'équivalent des émissions totales de l'Union européenne. Alors si on porte le regard sur la France, en France les 1% les plus riches émettent en moyenne 10 fois plus de CO2 par an par leur consommation que la moitié la plus pauvre des Français. Pour atteindre les objectifs climatiques d'ici 2030, 1% des Français les plus riches doivent diviser par 10 leurs émissions, lorsque les 50% les plus pauvres doivent les réduire d'un quart pour arriver donc à 2,8 tonnes de CO2. Bernard Arnault, le Français le plus riche, a ainsi une empreinte carbone de consommation de 1270 fois supérieure à un Français moyen. Alexandre Poidatz s'ajoute, la bonne nouvelle c'est que plus on est riche, plus il est facile de réduire ses émissions. Les émissions de carbone des 1% les plus riches proviennent principalement de biens de luxe et non essentiels. Certaines personnes n'ont pas qu'une responsabilité, elles ont aussi du pouvoir. D'un simple coup de téléphone à son conseiller en patrimoine, un milliardaire peut facilement transférer son argent d'une major des énergies fossiles vers une entreprise à la pointe des énergies renouvelables. Au-delà de leur train de vie, c'est donc leur patrimoine financier via leur détention de capitaux dans des entreprises fortement émettrices qui est le poste le plus important de l'empreinte carbone totale des milliardaires français. Bon là je vais quand même réagir hein, sur ce sur ce passage. C'est clair que là on essaie de montrer que les milliardaires pourraient être plus vertueux. Le problème c'est évidemment bien qu'il puisse y avoir des milliardaires hein, c'est clair, c'est une accumulation indue de richesses et c'est une aberration. Donc là bon, c'est le communiqué d'Oxfam, on le lit, voilà, on écoute, mais il faut pas se cacher que la normalité c'est bien l'existence de milliardaires, et c'est ça qui doit être supprimé hein, c'est l'accumulation de richesses et non pas demander à ces milliardaires de devenir vertueux hein. Je pense que c'est un peu peine perdue, ou encore il peut y avoir quelques actions entreprises qui donnent l'illusion que voilà, les efforts sont faits, alors que le principe, les principaux efforts, ce sont à ces ultra-riches de les faire. Voilà. Et c'est aussi une conception de la consommation, de l'organisation, de la production. Bien sûr, c'est cet aspect-là qui doit aussi permettre de régler le problème. Donc il y a tout un tas de recommandations fiscales. Je ne vais pas lire jusqu'au bout le communiqué. En tout cas, voilà, il est clair, hein, on disait tout à l'heure, les plus riches fournissent aussi un modèle par leur standard de vie, avec la publicité, avec ce que faussement on appelle la démocratisation de certaines consommations, prendre l'avion, ça pouvait être un luxe à une époque, là maintenant c'est devenu considéré comme normal de chercher à la dernière minute une destination pour partir en vacances. À bas coût. Tout ce qui finalement déresponsabilise hein, et désinhibe, tout ça, ça doit être contrecarré. Donc cette publicité, c'est aussi ce modèle de consommation des plus riches. C'est vraiment un sujet central. Alors, puisqu'on est sur l'effet de serre, un autre article qui m'a semblé intéressant avec Novetic sur la difficulté des forêts à absorber le CO2, puisque les forêts françaises, en piégeant le CO2 atmosphérique, donc contribuent certes de manière décisive à la lutte contre le réchauffement climatique, mais ce rôle de puits de carbone naturel est aujourd'hui menacé et met en péril l'atteinte des objectifs climatiques, puisque en 10 ans, les forêts ont absorbé un tiers de CO2 en moins. Ça, c'est si on prend la moyenne annuelle. Entre 2013 et 2021, elles ont absorbé 40 millions de tonnes de CO2 par an contre 60 millions sur la décennie précédente. Mais si on prend uniquement les dernières années, donc 2018 à 2022, la tendance est encore plus alarmante puisque les chiffres sont divisés par deux. Selon une estimation du CITEPA, donc c'est l'organisme qui a inventorie les émissions de gaz à effet de serre de la France, en 2022, les forêts ont capté seulement 27,6 millions de tonnes de CO2. Certaines forêts sont même devenues excédentaires et émettent plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. C'est le cas notamment dans le Grand Est. L'exploitation forestière y est assez intensive, presque autant que sur la plantation des Landes, explique dans plusieurs tweets le chercheur Philippe Sieyès. La région est affectée par la crise des scolytes des résineux depuis 2019. Donc c'est un parasite, hein. Dans les Hauts-de-France, en Normandie ou encore en Auvergne, les forêts, mais aussi les autres puits de carbone, donc les prairies, les sols, etc., émettent aussi du CO2 et ne jouent plus leur rôle de régulateur du climat selon le dernier inventaire du CITEPA. En cause, le changement climatique qui fragilise les écosystèmes forestiers. On assiste depuis une vingtaine d'années à une surmortalité, un déficit de régénération et des pertes de productivité, essentiellement à cause des sécheresses qui provoquent un affaiblissement des arbres, alors rendus plus sensibles aux pathogènes et aux ravageurs, résume l'Académie des sciences dans un rapport publié en juin dernier. Un constat renforcé par les données annuelles de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. La mortalité des arbres a ainsi augmenté de 77% en 10 ans. Les jeunes plants notamment sont impactés avec un taux record de mortalité de 38% en 2022 en raison des sécheresses. La croissance des arbres n'est pas non plus au rendez-vous avec un ralentissement de 4% sur la dernière décennie. Or, moins les arbres poussent, moins ils stockent du CO2. Enfin, 4% de la forêt est aujourd'hui dépérissante, c'est-à-dire que sur ces parcelles, on compte au moins 20% d'arbres morts. Les projections des modèles de fonctionnement des arbres forestiers montrent que les tendances déjà visibles de dépérissement vont s'accentuer dans les prochaines années et que des essences emblématiques telles que le chêne, le hêtre ou encore le pin sylvestre risquent de disparaître d'une grande partie de la France avant la fin du XXIe siècle, prévient l'Académie des sciences. Outre le changement climatique, la récolte de bois a aussi un impact. Celle-ci a augmenté de 20% entre 2012 et 2020 par rapport à 2005-2013, toujours selon l'IGN. Alors que faire pour sauver nos forêts et atteindre nos objectifs climatiques? Le gouvernement doit prochainement publier sa nouvelle feuille de route pour la période 2023-2030, une stratégie nationale bas carbone, SNBC3, et devra définir des objectifs pour le secteur des forêts et des sols. Bien que la précédente préconisait une augmentation des prélèvements de bois, l'Académie des sciences suggère que les produits bois à longue durée de vie et à fort potentiel de substitution, comme les charpentes, les panneaux ou isolants à base de bois dans la construction ou encore les produits pour l'ameublement, soient privilégiés, contrairement au bois énergie. Ça, c'est important, hein, je m'arrête là-dessus. Effectivement, le bois énergie, bien, il est clair que ça ne peut pas être une solution généralisable et extensible à l'infini, et que il faut donc privilégier cet usage avec des bois à longue durée de vie. Au titre de la construction au sens large, c'est une vigilance à avoir et qui me semble, moi, importante, parce qu'on est toujours derrière l'idée qu'on va trouver la solution miracle de l'énergie renouvelable. En réalité, le premier effort à faire est celui de la réduction des besoins, la réduction de la consommation, de la sobriété, en un mot. Alors, quel avenir pour la récolte de bois? Je reprends la conclusion de l'article. Le gouvernement mise également sur la plantation d'un milliard d'arbres en 10 ans, une idée qui peut sembler séduisante de prime abord, mais dont la mise en œuvre doit être plus fortement encadrée pour éviter la généralisation du modèle coupe-rase, plantation en monoculture, qui ne permet pas de répondre à l'enjeu climatique. Relever les défis auxquels la forêt et ses usages sont confrontés s'avère beaucoup plus complexe que l'idée simpliste selon laquelle il suffirait de planter des arbres ou de les laisser pousser, persifle encore l'Académie des sciences. Oui, bah, manière de répondre aussi aux politiciens qui sont abreuvés de tableaux et de tableurs et qui nous promettent de planter un milliard d'arbres en pensant faire de l'écologie. On en connaît et certains s'en vantent. Voilà, c'est complètement absurde. Ça montre que bien ils ont un esprit de laborantin. Hein. Ils réduisent l'environnement à bien un seul paramètre. Voilà, il n'y a qu'à planter des arbres. Peu importe la gestion de la forêt, peu importe l'usage du bois. Peu importe si les essences sont adaptées, faut faire du chiffre, voilà. Et puis ça fait des belles annonces, ça fait de la belle com gouvernementale. Allez, pour conclure avec un autre sujet connexe, donc sur les transports, avec Reporter, un article du 9 novembre qui nous rappelle que les SUV, alors je vais pas vous dire l'acronyme, hein, mais bon, c'est des grosses bagnoles, quoi, les SUV. Électrique menace la transition énergétique, puisque construire des voitures trop grosses et trop lourdes, comme les SUV, entraîne une surconsommation de métaux critiques et fait planer à court terme la menace de pénurie, selon un rapport du WWF France qui a été publié le 9 novembre. Puisqu'en effet, la construction de voitures électriques consomme 2,2 fois plus de métaux critiques qu'une voiture thermique. Donc, principalement utilisés pour les batteries, ces matériaux que sont le nickel, le cuivre, le cobalt, le lithium, entre autres, ne sont pas rares dans l'absolu dans la croûte terrestre. Ce sont les difficultés liées à leur extraction ou leur transport qui les rendent critiques, au sens où une demande trop forte pourrait créer une situation de pénurie délétère pour la fabrication de batteries comme pour d'autres éléments de la transition énergétique. Panneaux solaires, éoliennes, électrolyseurs, réseaux électriques, stockage, stationnaire, etc. Or, un gros SUV doté d'une batterie de 100 kWh, comme la Tesla X, l'Audi Q8 e-tron, tiens, l'a bien nommé, un e-tron, où la future Peugeot E3008 illustre le rapport « Consomme 3 fois plus de cuivre et d'aluminium et 5 fois plus de lithium, de nickel, de cobalt, de manganèse et de graphite qu'une petite citadine avec une batterie de 20 kWh ». De type Renault Twingo ZE. Avec les métaux critiques d'un gros SUV, on pourrait fabriquer les batteries pour 5 petites citadines électriques, 16 mini-voitures ou 250 vélos à assistance électrique. Donc là, on voit, je fais un petit commentaire aussi, hein, on voit que, bien, toujours dans cet aspect du luxe d'avoir, voilà, de vanter l'acquisition de voitures véhicules puissants, eh bien, on voit que derrière se cache une gabegie vraiment phénoménale. Avec bien des consommateurs aveugles, hein, pensant qu'ils font de l'écologie, alors que bien l'impact environnemental est très important. Je reprends la suite de l'article. Comme ailleurs dans le monde, les ventes de SUV électriques explosent en France. De 6% des voitures électriques neuves en 2017, leur proportion est passée à 30% en 2022. Dans un scénario de laisser-faire, il faudra en 2035 8 fois plus de batteries qu'aujourd'hui pour répondre à la demande française. Si le monde entier achetait autant de SUV électriques que les Français, l'industrie minière et métallurgique ne produirait pas assez de métaux critiques à la fin de la décennie, estime le WWF. L'ONG appelle donc à développer les moyens de déplacement alternatifs, le covoiturage et la sobriété dans les déplacements, mais aussi à désuviser, donc arrêter de développer les SUV, la voiture électrique. Pour cela, le rapport recommande d'installer un malus poids visant spécifiquement ces véhicules, d'exclure du bonus électrique les véhicules de plus de 1,6 tonnes, sauf pour les familles nombreuses, et d'exiger des constructeurs automobiles la publication annuelle du poids moyen des véhicules fabriqués, assorti d'une pénalité de 5 euros par kilo excédant 1,6 tonnes pour chaque voiture vendue. Dans un tel scénario de sobriété, la demande en batterie pourrait diminuer jusqu'à 40%. Par rapport au pire scénario, celui du laisser-faire, estime le rapport. Voilà. Eh bien, on va s'accorder une pause musicale bien méritée. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. La musique du film La 25e heure, qui date de 1967, par Georges Delru. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz et nous ouvrons la page Agriculture avec un article de reporter du 29 novembre qui rapporte le fait que l'inflation permet à l'agro-industrie de réaliser des profits indécents. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si vous, vous le faites, mais dans mon entourage, on finit par beaucoup se moquer, en tout cas, d'invoquer ce mauvais prétexte en disant que si les denrées augmentent, c'est à cause de l'Ukraine. Voilà, comme une mauvaise excuse qui revient fréquemment. Bon, c'est une blague, qui n'est pas forcément à mettre en rapport avec les événements non plus dont souffrent les populations, bien sûr, avec les bombardements, mais manière d'ironiser un peu sur justement l'agro-industrie. Je reprends la lecture de l'article. 4 associations de consommateurs, l'UFC Que Choisir, Foodwatch, la CLCV et Famille Rurale, s'en indignent dans un communiqué de presse paru le 29 novembre, mercredi dernier. Et il nous dit que la marge de l'industrie agroalimentaire a atteint un niveau historique de 48%, la marge, pardon, et celle de la grande distribution a elle aussi augmenté sur certains rayons de première nécessité comme les pâtes, les légumes ou encore le lait, dénonce-t-elle. Une hausse des prix qui profite aux industriels mais met des millions de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire en France. Selon une étude de Famille Rurale, un Français sur trois déclare sauter un repas par manque d'argent. L'inflation alimentaire a atteint 20% en 2 ans. Un scandale renforcé par l'opacité inacceptable sur la construction des prix, insistent les associations. Elle rappelle que l'autorité de la concurrence avait alerté sur les profits excessifs de certaines entreprises grâce à l'inflation. Face à cette situation, elle demande premièrement la transparence sur les marges afin de savoir quel profit est réalisé par chaque acteur de la chaîne alimentaire. Deuxièmement, des mesures empêchant les marges excessives sur les produits sains tels que les fruits et légumes, les aliments bio, les légumineuses. Et troisièmement, la suppression de la disposition qui garantit une marge minimum de 10% pour la grande distribution. Voilà pour ce communiqué. Alors un autre communiqué, Génération Future, du 22 novembre, sur les règlements pesticides et cette mauvaise nouvelle, les eurodéputés conservateurs mettent en pièce l'ambition de réduire les pesticides en Europe, puisque le 22 novembre, une majorité du Parlement européen a rejeté la proposition de la Commission visant à réduire l'utilisation des pesticides dans l'Union européenne, qui était un pilier du Green Deal de l'Union européenne, en raison des efforts de lobbying de l'agro-industrie. Comme l'a déclaré l'eurodéputée et rapporteuse Sarah Wiener, aujourd'hui est un jour très sombre pour l'environnement et les agriculteurs. Lors du vote en plénière, une majorité de députés a voté contre tous les aspects prometteurs de la proposition de règlement, ce qui en fait un texte législatif vide, sans aucune possibilité de réduire l'utilisation de pesticides toxiques dans nos champs. Malgré le large consensus scientifique et public sur la nécessité d'éliminer progressivement les pesticides, la proposition de règlement de la Commission, initialement ambitieuse, a été fortement édulcorée par l'adoption d'amendements supprimant les objectifs nationaux contraignants et les règles de lutte intégrées contre les ravageurs. En conséquence, les députés européens qui souhaitaient un texte ambitieux ont décidé de voter contre la proposition vidée de sa substance dans son ensemble. Donc, selon Johan Coulmont, qui est chargé de mission plaidoyer chez Génération Future, ce règlement était un élément important du Green Deal sur l'agriculture et une opportunité d'engager la transition des systèmes agroalimentaires à l'échelle de l'Union européenne. Les députés européens conservateurs ont tout fait pour affaiblir le texte jusqu'à le vider de sa substance. Ils ont sapé tous les efforts pour assurer le droit à un environnement sain et assurer aux Européens une souveraineté alimentaire durable. Selon Madeleine Coste, qui est directrice du plaidoyer chez Slow Food, une majorité du Parlement a décidé de se ranger du côté de l'agro-industrie et de ses alliés, qui ont fait pression contre cette proposition au cours des 2 dernières années, en ignorant le consensus scientifique sur la nécessité de transformer notre système alimentaire actuel. Il est scandaleux que les voix des scientifiques et des citoyens soient ainsi ignorées, et c'est une perspective inquiétante pour le sort de la stratégie européenne de la ferme à la table et pour la transition vers des systèmes alimentaires durables. Clara Bourgin, enfin, chargée de campagne alimentation, agriculture et nature chez Friends, les Amis de la Terre Europe, Les députés européens conservateurs ont porté aujourd'hui le coup de grâce à l'essentielle loi sur la réduction des pesticides. Nous sommes revenus à la case départ sans aucune proposition pour lutter contre la crise de la biodiversité, garantir notre sécurité alimentaire au long terme et protéger la santé des citoyens. Quand les décideurs politiques vont-ils se réveiller et cesser de privilégier les intérêts des industries toxiques au détriment des citoyens qu'ils sont censés représenter ? Eh bien, on le voit, l'intérêt économique est bien défendu et après, il est toujours... On peut toujours voir ces mêmes députés revenir dans leur région et s'apitoyer parfois contre des intoxications alimentaires et finalement jouer des intoxications par les pesticides et jouer double jeu finalement, hein, l'indignation locale et globalement maintenir le statu quo en la matière. Autre sujet sur la page agriculture, avec la Confédération paysanne qui dénonce cet accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, une décision fatale pour notre agriculture, puisque il y a eu un vote le 21 novembre au Parlement européen. Donc la Confédération paysanne avait appelé les députés à un sursaut face aux enjeux de souveraineté alimentaire, de revenus paysans, de dérèglement climatique et de démocratie, et donc appelé à rejeter cet accord de libre-échange scandaleux entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Cet accord prévoit une suppression totale des droits de douane sur de nombreux produits agricoles, les kiwis, les pommes, les oignons, le miel, et des contingents importants sur la viande bovine, 10 000 tonnes, viande ovine, 38 000 tonnes, beurre, 15 000 tonnes, fromage, 25 000 tonnes, et lait en poudre, 15 000 tonnes. Comment peut-on cautionner des prix agricoles toujours tirés plus vers le bas ? L'alimentation ne peut être la variable d'ajustement d'un système néolibéral catastrophique sur le plan social, territorial et écologique, et sur le plan des inégalités économiques. Comment peut-on décemment être favorable à l'augmentation des échanges commerciaux avec l'autre bout de notre planète qui brûle ? La propre étude d'impact de la Commission européenne signale une augmentation des émissions de gaz à effet de serre générées par cet accord commercial. Il faut arrêter cette croyance aveugle dans le dogme du libre-échange. Nous fonçons droit dans le mur et vous accélérez. Accord Union européenne-Australie, accord Union européenne-Mercosur, de nombreux accords de libre-échange sont dans les tuyaux. Ces accords anéantissent tout espoir de relocalisation de notre agriculture pour faire vivre nos territoires et rémunérer le travail paysan. L'heure est gravissime, le consensus actuel vers toujours plus de libre-échange est hallucinant et inconséquent. Le Parlement européen devrait au contraire protéger les paysans de ces marchés dérégulés, indispensables pour notre souveraineté alimentaire. Autre bien communiqué de la Confédération paysanne, la transition énergétique ne peut se faire au détriment de la souveraineté alimentaire et de la biodiversité, communiqué du 23 novembre. Alors que nous sommes toujours dans l'attente du décret censé encadrer l'agrivoltaïsme, le ministère de la Transition écologique soumet à consultation du public jusqu'au 24 novembre un autre texte réglementaire, celui qui permettra de faciliter la destruction d'espèces protégées par les promoteurs d'énergie renouvelable. En effet, pour obtenir une dérogation permettant la destruction des espèces protégées, une installation de production d'énergie renouvelable doit satisfaire trois critères, dont celui de répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur. Aujourd'hui, il incombe aux porteurs de projets de le prouver. Avec ce décret, tous les projets dépassant une certaine taille seront, alors c'est une puissance, hein, voilà, en fonction de photovoltaïque ou de la méthanisation, seront automatiquement considérés comme répondant à raison impérative d'intérêt public majeur dès lors que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne sont pas encore atteints. Oui, la transition énergétique est un objectif primordial, mais n'est ni nécessaire ni souhaitable de l'atteindre en sacrifiant la biodiversité. Et surtout, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de l'atteindre en sacrifiant notre souveraineté alimentaire. Par exemple, en ce qui concerne l'énergie photovoltaïque, l'installation de panneaux sur les toitures et les surfaces déjà artificialisées permettrait de dépasser largement les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce projet de décret montre l'intention du gouvernement de mettre fin à tous les garde-fous qui limitaient jusque-là l'appétit des firmes énergéticiennes. Le projet de décret sur l'agrivoltaïsme, actuellement en discussion, semble aussi aller dans le sens du sacrifice des terres agricoles, naturelles et forestières. La Confédération paysanne ne pourra pas accepter que l'agriculture et la nature soient dépouillées. On le voit, hein, c'est un peu le sujet précédent, hein, sur la consommation du bois de chauffage par rapport à celle qui est utilisée pour la construction, ben là c'est la même chose. L'agriculture qui se tournerait de plus en plus vers l'agriculture comme source d'énergie, alors que, et au détriment, tout cela au détriment de l'activité productive et nourricière, et surtout du respect aussi de la biodiversité, de l'espace que l'ensemble des espèces ont besoin pour pouvoir vivre et survivre. Et puis un article, c'est toujours encore deux communiqués, mais c'est d'actualité. Donc premièrement, sur la mévente de miel, la Confédération paysanne fait prendre conscience de l'ampleur de la crise, donc article du 30 novembre. À l'occasion du fait que près de 150 apiculteurs avaient manifesté à l'appel de la Confédération paysanne jeudi dernier à Paris pour dénoncer les problèmes de mévente de miel qui touchent la profession, l'appel étant soutenu par l'UNAF, le SNA et la FFAP, donc Association d'apiculteurs, venus des quatre coins de la France, ces professionnels ont organisé une vente de miel solidaire place de la République, puis manifesté jusqu'à la place de la Bastille. Ils subissent de plein fouet les choix des négociants français qui préfèrent se tourner massivement vers les miels d'importation à un prix défiant toute concurrence, moins de 2 euros le kilo. Les négociants rechignent donc à payer le miel français à sa juste valeur. Pire, les négociants n'achètent même plus la production française qui reste bloquée sur les fermes, les entrepôts des négociants étant saturés de miel d'import à bas prix. Cette situation impacte tous les circuits de vente, y compris la vente en détail. Tous les apiculteurs voient donc leur activité gravement menacée. Une délégation de la Confédération paysanne a été reçue par le cabinet du ministre de l'Agriculture. En désaccord sur le constat de la crise, nous avons réussi à leur faire prendre conscience de sa nature comme de son ampleur. Lors de ce rendez-vous, la Confédération paysanne a obtenu un calendrier de travail pour objectiver les raisons de la crise et identifier les leviers de régulation du marché et de sa transparence. Le prochain rendez-vous technique est prévu d'ici 3 semaines. La Confédération paysanne a donc insisté sur l'urgence de mesures d'aide directe forfaitaire à la trésorerie et le soutien des charges des apiculteurs. Nous avons aussi demandé de la transparence, des contrôles et un assainissement de la filière. Pour réguler les importations, le ministère doit accepter de mettre en place des prix minimums d'entrée. Il ne s'agit pas d'interdire les importations de miel, mais d'empêcher la concurrence déloyale des prix bas que subissent les apiculteurs actuellement. C'est aussi une opportunité pour que les apiculteurs des pays exportateurs revendiquent aussi des prix rémunérateurs auprès de leurs négociants. Les apiculteurs et apicultrices ne doivent pas être la variable d'ajustement du miel importé. Nous partageons les propos du ministère de ne laisser aucun apiculteur sur le carreau, signe que nous avons été entendus. Ce combat va au-delà des seuls enjeux de la filière apicole, car le service de pollinisation impactera l'ensemble de la filière agricole. Notre souveraineté alimentaire en dépend. Et puis, dernier communiqué, mais qui illustre bien les difficultés actuelles rencontrées par le monde paysan, sur les aides aux producteurs en agriculture bio, la mobilisation de la Confédération paysanne a été entendue, donc communiqué du 1er décembre, vendredi dernier. Le ministère de l'Agriculture a annoncé donc jeudi dernier 34 millions d'aides supplémentaires pour les producteurs en agriculture bio. Ce montant, si cette décision est validée par la Commission européenne, viendra s'ajouter à l'enveloppe d'aide d'urgence de 60 millions débloqués suite à la mobilisation sur ce dossier depuis l'hiver 2022. Depuis le début de la crise, la Confédération paysanne a porté le principe et la nécessité d'une aide d'urgence. En ce sens, nos différentes mobilisations ont été entendues et c'est une bonne nouvelle pour les producteurs en agriculture bio. Cette rallonge budgétaire est une reconnaissance des difficultés rencontrées par ces producteurs. Si le ministère reconnaît aussi que les besoins sont plus importants que ceux initialement estimés par ces services, les critères choisis pour bénéficier de cette aide laissent encore trop de monde sur le bord du chemin. Nous souhaitons que ce soit le signe que le gouvernement se réengage durablement dans un soutien aux producteurs en agriculture bio après avoir supprimé l'aide au maintien en agriculture biologique. Il faut maintenant réussir à s'accorder sur des mesures structurelles qui soutiennent les efforts des paysans et afin d'atteindre l'objectif de 18% de surface agricole utile en bio à l'horizon 2027 en France, contre seulement 10% aujourd'hui. Allez, on va s'accorder peut-être une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Alléluia, alléluia, nous y emboutons, nous y enfleurons. Alléluia, alléluia.
C'était Les Charlots, vous avez peut-être pu reconnaître cette parodie d'Alléluia par Allénouille. Voilà, on était sur la page agriculture et voilà, c'était une page culturelle hein, sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. Alors je voulais avoir le temps, c'est un peu décousu, je voulais quand même revenir sur un article de fond qui me semble intéressant. Sur le sujet énergétique, on en parlait tout à l'heure, avec Reporter, donc un article de Lorraine Lavocat du 24 novembre, qui nous explique pourquoi ça bloque sur la rénovation thermique. Alors le constat est clair, un Français sur 5 souffre du froid en hiver, la faute aux plus de 5 millions de logements mal isolés existants à travers le pays. Et environ donc 12 millions de personnes devraient continuer à grelotter encore longtemps, car force est de constater que la rénovation de ces passoires thermiques, pourtant affichée comme une priorité par le président de la République, patine. Voyez plutôt, en 2023, seules 15 000 maisons ont perdu leur glaçante étiquette G ou F, donc c'est l'étiquette de consommation la plus défavorable, et grâce à des travaux selon les chiffres de l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANAH. Et le gouvernement ne prévoit que 40 000 rénovations de passoires pour 2024. À ce rythme-là, il faudrait donc 130 ans pour isoler l'ensemble des bâtiments les plus énergivores. On est encore très loin des objectifs fixés et les volumes à rénover sont colossaux par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, constate Vincent Legrand, qui est président de Doremi, un des acteurs majeurs du secteur. On fait du surplace, abonde Olivier Sidler de Negawatt, qui salue cependant une prise de conscience de l'urgence au sein du gouvernement. La marche est encore haute, observe ainsi Isabelle Gasquet du réseau Claire. À l'occasion de la journée nationale contre la précarité énergétique, le 23 novembre, Reporter donc fait le point sur les blocages persistants. Premièrement, des aides toujours mal fichues. Depuis quelques années, les rapports s'empilent avec un même constat, les dispositifs d'aide ne fonctionnent pas. En cause, d'après la très sérieuse Cour des comptes, des subventions mal fléchées. Sur les 750 000 financements débloqués en 2021, les trois quarts des actions ont consisté en un simple changement de mode de chauffage pour des poêles à granulés et des pompes à chaleur. Or, les pompes à chaleur, c'est très bien, à condition d'isoler le logement, rappelle Olivier Sidler, qui est co-auteur d'un rapport de Negawatt à ce propos. Autre problème, jusqu'à présent, les aides ont surtout permis de petits travaux comme des changements de fenêtres. Là encore, ça ne fonctionne pas. Et réaliser un ou deux gestes de travaux n'aboutit pas à plus de performance énergétique, souligne Vincent Legrand, qui plaide depuis des années pour des rénovations globales et performantes, prenant en compte la toiture, les murs, le sol, les portes et fenêtres, la ventilation et le chauffage. Le gouvernement semble enfin avoir entendu les alertes. Pour 2024, le dispositif principal, appelé MaPrimeRénov, a été de nouveau toiletté pour favoriser les travaux d'ampleur. Sauf que, citation, pour l'instant le compte n'y est pas, regrette Vincent Legrand. La plus grosse enveloppe de 3,2 millions d'euros devrait être consacrée à un parcours efficacité fléché vers le changement de chauffage et les monogestes. L'autre parcours, baptisé Performance et doté d'1,6 milliard d'euros, devrait faciliter les chantiers plus performants. Outre les critères d'attribution, nombre d'observateurs, dont des députés issus de différents partis, ont dénoncé le montant toujours trop faible de ces subsides. Les dispositifs actuels se montrent insuffisants, notamment pour les ménages les plus modestes, qui gardent un reste à charge dissuasif, pointait ainsi un rapport parlementaire publié le mois dernier. Il estimait à 14 milliards d'euros supplémentaires l'effort financier à fournir en 2030 pour tenir les objectifs. Dernier point et non des moindres, selon Olivier Sidler, les messages brouillons du pouvoir politique à ce sujet. Les dispositifs changent souvent, les gens ne savent plus où on en est. Au lieu de faire un guichet unique avec un seul financement clair et lisible, on a des usines à gaz. Deuxième point critique, l'accompagnement insuffisant. Le gouvernement fait reposer le poids de la rénovation sur les particuliers, or les propriétaires ne sont pas des pros du bâtiment. Une rénovation performante, ça requiert un savoir-faire et des connaissances, explique Jérémy Rouzeau. L'homme dirige la société Kyainos, qui est un des principaux acteurs du secteur en France. Chaque année, l'entreprise rachète et rénove 1000 passoires thermiques qu'elle remet ensuite sur le marché locatif. Après 4 ans d'existence, son constat est sans appel. Il n'y a pas ou très peu de rénovateurs en France. Comprendre des professionnels dotés d'une vision globale des travaux à mener. Pour Jérémy Rouzeau, ce grand chantier écologique restera donc en panne tant qu'on ne soutiendra pas les organisations comme la sienne qui supervisent et gèrent les opérations de A à Z. Même constat du côté de structures moins lucratives comme Doremi. Tout l'enjeu, c'est de faire travailler entre eux des corps de métiers différents. Les plaquistes, les électriciens, les chauffagistes, explique Vincent Legrand. On a besoin de groupements d'artisans et d'accompagnateurs formés qui projettent le ménage dans la maison. Le problème n'est pas nouveau et le gouvernement a tenté d'y apporter une timide réponse. En 2022, il lançait en grande pompe un nouveau service public, France Rénov. 550 guichets à travers la France et des accompagnateurs Rénov chargés de guider les ménages. C'était un premier pas, mais insuffisant face aux besoins, souligne Isabelle Gasquet. Pour pallier au manque de moyens humains sans mettre la main à la poche, l'exécutif a ouvert le système au privé. Désormais, des architectes, des auditeurs énergétiques peuvent recevoir l'agrément accompagnateur Rénov et être payés pour ça, précise la spécialiste, avec une crainte que ces nouveaux acteurs ne soient pas neutres et indépendants dans leurs conseils. Troisième grand chapitre, sur le terrain des acteurs récalcitrants, le constat est que même une fois enclenché, un chantier de rénovation relève du parcours du combattant. Car sur le terrain, les obstacles sont toujours nombreux, les escrocs sont encore légions, la répression des fraudes a reçu 17 000 signalements à ce sujet sur les 9 premiers mois de l'année, les banques demeurent très récalcitrantes à soutenir les opérations, moins de 130 prêts à taux zéro ont été distribués en 6 mois, et les copropriétés restent réfractaires à lancer des travaux d'ampleur. Autre frein pointé par plusieurs experts, les préconisations des architectes des bâtiments de France qui interviennent lors de travaux menés dans et autour des sites classés, non sans accroc avec les professionnels de la rénovation. Dans le centre ancien d'une ville, dans un immeuble qui n'a rien d'exceptionnel, l'ABF, donc les bâtiments de France, nous a imposé du simple vitrage, s'emporte Jérémy Rouzeau. Les pompes à chaleur sont aussi très souvent interdites parce que les unités extérieures sont moches. Malgré l'urgence, le gouvernement avance donc à trop petits pas et la rénovation peine à décoller au détriment des plus modestes. Pour eux, la rénovation globale est le seul moyen de ne pas tomber dans la grande précarité, insiste Vincent Legrand, rappelant que des travaux d'ampleur peuvent permettre de diviser par 6 ou 7 la facture de chauffage. Pour débloquer la situation, les associations plaident pour une obligation à rénover seule, à même d'enclencher la machine, selon Olivier Sidler. L'interdiction progressive de louer des passoires thermiques, si elle va dans le bon sens, reste bien trop timide à ses yeux. Voilà, je voulais faire ce point, cet éclairage. On arrive en fin d'émission tranquillement. On peut dire pour terminer que vous pouvez évidemment soutenir Radio Libertaire qui ne vit que du soutien de ses auditeurs. Et pour cela, vous rendre sur le site de la radio où tout est expliqué par rapport à une souscription permanente. Quant à l'émission Les Mangeux de Terre, eh bien nous nous retrouvons comme d'habitude les premiers lundis du mois. Donc je n'ai pas fait le calcul, mais ici il me semble bien que c'est le 1er janvier lundi 1er janvier. Donc, il est fort probable que l'émission ait lieu lundi 1er janvier à 18h. C'est la prochaine et la première, ce sera la première émission de l'année. Des mangeux de terre, bah, d'ici là, restez à l'écoute de la plus rebelle des radios. Et bon mois, bonne fin décembre à vous. Et on se retrouve donc en début d'année prochaine.
Contre le sommeil, on ne disposait que de quelques produits comme les amphétamines ou la caféine. Les amphétamines sont responsables d'effets secondaires qui ne permettent pas de les utiliser longtemps, troubles visuels, palpitations, anxiété et surtout des phénomènes de dépendance. Toute complication difficilement compatible avec les activités d'un militaire pendant un conflit. Des singes ont pu être maintenus éveillés pendant 4 jours et 4 nuits. Les nouveaux équipements militaires rendent possible la vision de nuit. Il n'y aurait donc pas de répit en cas de conflit, d'où l'intérêt de ce médicament qui maintient une vigilance quasi normale en l'absence de sommeil.
I have a statement by the President of the United States.
Sound Market のスタジオはすっかりマロネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。
Vous ne pouvez pas imaginer, ils encerclent le Parlement et se préparent à l'attaque.
Le soleil est souvent que...
La lueur des ombres se verne.
Monsieur
Pretoria ?
Oui, bonjour.
Bonsoir, vous posez votre question ?
Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, 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 la fin du monde.
De la délivrance, le pacte de l'espoir.
Chris Bertin, il est...
les 2h moins 10, et les 3h moins 10, pardon, du matin.
Oui, notamment pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. En un mot, Claude Guillaumin, c'est la guerre.
Je mets un micro à la fenêtre, je pense que vous pouvez entendre le son.
Avril est de retour, la première des roses de ses lèvres mi-closes rit au premier beau jour. La terre bienheureuse s'ouvre et s'épanouit, tout aime, tout jouit. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Les buveurs en gaieté, dans leur chanson vermeille, célèbrent sous les treilles le vin et la beauté. La musique joyeuse, avec leur rire clair, s'éparpille dans l'air. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Oh, des habits blancs, les jeunes demoiselles s'en vont sous les tonnelles au bras de leurs galants. La lune langoureuse argente leurs baisers longuement.